La conférence, c'est plutôt de vous montrer l'émergence du terme de développement durable, un peu rappeler qu'est-ce que le développement durable. Je pense que vous en entendez assez souvent parler, par les médias notamment, et puis montrer l'évolution et le lien avec les politiques environnementales qui prennent en partie en compte cette nouvelle conception, cette notion développement durable, plutôt même puisque c'est une notion et pas un concept. Alors la différence entre les deux, c'est que le concept est clairement défini, la notion reste assez floue, il n'y a pas de sens réellement scientifique. Donc, on va essayer de voir ça un peu ensemble. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est à la fois de mesurer les enjeux politiques, économiques, financiers et également éthiques du développement durable, qu'on résume souvent avec l'abréviation DD, et puis surtout essayer de replacer cette notion dans le contexte actuel, politique notamment, puisqu'on est déjà au début du XXIe siècle, et ça a beaucoup changé sur la prise en compte de l'environnement par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte, mais il faut replacer absolument cette évolution de la prise en compte de l'environnement. Vous avez un exemple ici où il y a quelques images, vous connaissez aussi certaines émissions sans doute qui passent à la télé, qui vous rappellent assez souvent des bilans catastrophiques. La mer d'Aral ici par exemple, dont vous avez une photo, la mer d'Aral qui est située au Kazakhstan, au niveau du Caucase, je pense que ça fait loin, en tout cas à situer, un simple chiffre. Cette mer, qui à l'origine est une mer, a perdu 2/3 de sa surface, 95% de son volume en eau, en 40 ans lié à de l'irrigation. Donc ça représente des centaines de kilomètres carrés. Et vous avez ici la localisation d'un ancien port. Vous voyez ce qui reste, simplement un bateau, il n'y a plus du tout la mer. Et vous avez des croûtes de sel qui rendent inutilisables ces surfaces. Alors, rentrons dans le vif du sujet et tout d'abord, quelle est la définition qu'on peut donner au terme de développement durable? La première définition, elle se basera sur une citation. Il y a beaucoup de citations qui existent pour définir ce terme de développement durable. Alors si je prends cette définition qui est une définition, je dirais, classique, c'est un cadre de débat politique et d'action publique, horizon pragmatique, programmatique, pardon, mettant en tension, surtout ça c'est deux choses importantes, d'une part la préoccupation des sociétés et d'un développement équitable des sociétés, avec d'un autre côté la préservation de l'environnement naturel. Si vous avez ici un petit schéma, je reprends. Si vous avez ici un petit schéma, vous avez trois dimensions, trois prises en compte qui sont importantes. La prise en compte écologique, sociale et économique. Et le développement durable, c'est l'association de ces trois dimensions. Si on la détaille un tout petit peu, si j'associe le social à un développement économique, c'est ce qu'on va appeler l'équitable, que vous connaissez sans doute tous sous le terme de commerce équitable, par exemple le café, qui est un des plus médiatisés. Si on croise l'écologique avec l'économique, on va parler cette fois-ci de développement viable. Et puis de l'autre côté, écologique et social, c'est ce qu'on va appeler vivable. Donc le développement durable, première information, première définition, c'est le croisement de ces trois dimensions écologiques, sociales et économiques, avec derrière l'ambition de faire un développement tout en prenant en compte l'environnement et la protection de la nature, avec également la protection des ressources naturelles. Alors, le développement durable, du coup, c'est une incitation à un changement de pratique, un changement d'utilisation des ressources, et ça, c'est plutôt une incitation à changer différents types de comportements. Il y a tout d'abord une incitation à changer notre mode de pensée, agir local, penser global. Ça, c'est pas toujours simple, mais on agit localement pour le développement durable en se disant qu'on va faire quelque chose pour le monde. Ce qui est utopique, mais en tout cas, c'est une incitation à changer nos pratiques. Nos modes de gestion également doivent être changés, et là, on rejoint l'intégration de plusieurs composantes que je vous ai présentées avant, à la fois sociale, économique, écologique, et puis il y a même la dimension éthique, prendre en compte le développement des différentes sociétés qui existent à l'échelle du globe. Le développement durable, c'est également une incitation à changer nos modes de production et de consommation, avec un exemple, l'éco-conception, qui rejoint l'éco-tourisme, l'éco-développement, les éco-quartiers, que vous avez peut-être vu croiser, avec des quartiers immobiliers qui se construisent avec des matériaux qui prennent en compte la préservation de l'environnement. Et puis, il y a également l'intégration du long terme et du global, à la fois pour les générations futures, tout en évitant et réduisant les oppositions entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je pense que ça, vous arrivez maintenant à faire la distinction. Ce qu'on appelle aussi pays développés, sous-développés, ces deux termes-là étant quand même assez abusifs dans leur sens. Et puis, il y a également une incitation à changer les processus de décision, prise en compte des acteurs locaux à l'échelle locale, donc, et des politiques au niveau national, voire mondial. Donc, il y a une meilleure interaction, je dirais, entre le niveau local et le niveau mondial. Donc, le développement durable regroupe l'ensemble de ces incitations à un changement de comportement. Et puis, j'en profite à chaque fois pour vous rappeler quelques chiffres, ce qui vous paraît peut-être absurde, mais en tout cas, vous avez ici un exemple, hein, accéder à l'eau potable, ce qui, pour nous, en tout cas, société occidentale, nous paraît une nécessité, une normalité. Je rappellerai qu'un être sur cinq n'a pas accès à l'eau potable. Donc, c'est aussi un des enjeux du développement durable. Ça rejoint nos modes de gestion, essayer de partager et de développer ensemble pour un meilleur avenir pour l'ensemble des sociétés. Alors, je reviendrai rapidement sur l'évolution historique, sans rentrer trop dans les détails, puisque je pense que ce n'est pas l'objectif de la conférence, mais cette notion de développement durable, elle est apparue depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, donc début des années 70. Elle structure le débat politique autour de nombreuses interrogations. Elle inscrit l'homme et son environnement au cœur des préoccupations. Et, pour rappel, elle intègre évidemment le social, l'environnement, l'écologique, l'éthique et la gouvernance. De plus en plus sont apparues depuis quelques années les semaines du développement durable. En France, c'est la première semaine du mois d'avril. Donc c'est dans un mois, pour la prochaine campagne, vous avez ici des affiches où c'est un rappel sur la prise en compte du développement durable. Donc c'est vraiment un concept qui mobilise de plus en plus de personnes et à la fois pour les différents niveaux, niveau scolaire et niveau aussi au niveau des personnes actives. Alors, ce concept mobilisateur propose donc un cadre de référence pour différentes actions, préservation de l'environnement en tête, vivons ensemble autrement, vous avez différentes affiches hein, qui vous présentent ces nouvelles conceptions. Il y a également un principe qu'on a tendance à oublier, c'est le principe éthique, c'est un principe de justice élargie. Donc, le principe de justice qui existe dans les sociétés développées, est-ce qu'il est adaptable à des sociétés qu'on considère comme étant sous-développées? Et puis, ça propose une nouvelle forme de partenariat, en se disant aussi que ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pour les générations futures. Ça, je reviendrai tout à l'heure sur ce point-là, puisque c'est un des nouveaux caps, je dirais, du développement durable à l'heure actuelle. Alors, à l'échelle mondiale, pour terminer sur ces définitions, il y a cinq grands enjeux mondiaux qui mobilisent aujourd'hui le développement durable. Et je rappellerai également ici quelques chiffres qui sont importants. L'enjeu humain, c'est réduire la pauvreté tout en prenant en compte la croissance démographique. L'enjeu démocratique, limiter les guerres, les dictatures, favoriser les libertés et la citoyenneté. Ça vous semble aussi peut-être des banalités, mais il y a beaucoup de sociétés où ce n'est pas le cas. Et puis, l'enjeu éthique, réduire la corruption et l'argent sale et faciliter un besoin de transparence. Toutes ces dimensions sont associées. Alors, si je reviens sur l'enjeu humain, pareil, un chiffre important. En fuyant les conditions de vie difficiles des campagnes, un être humain sur sept, aujourd'hui, vit dans des bidonvilles. Vous connaissez peut-être le terme de bidonville, ce sont des quartiers qui se construisent à la marge de villes, donc ce sont des habitations illégales. Un habitant sur sept vit dans un bidonville. Les 7 milliards, ça fait à peu près 1 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles, donc dans un niveau de précarité important. Et vous avez ici une photo qui vous montre l'ampleur, j'espère en tout cas, de ces conditions de vie difficiles. Les deux autres enjeux, c'est limiter l'épuisement des ressources naturelles. Alors, il y a plein d'exemples. Là aussi, j'essaie de faire rapide et plutôt court. Les volumes de prise liés à la pêche ont été multipliés par 5 depuis les années 50, et ce qui a conduit à un chiffre important. 70% des stocks de pêche sont aujourd'hui menacés de surexploitation. 70% de ces stocks sont menacés de surexploitation, voire d'épuisement à court terme. Donc c'est aussi un enjeu écologique. Et puis l'enjeu économique, c'est de se dire aujourd'hui que le système économique que l'on a actuellement n'est pas forcément le plus adapté pour protéger l'environnement. Ça, on peut aussi en débattre après, mais en tout cas, c'est un des enjeux mondiaux également qui accompagne le développement durable. Le développement durable, pour terminer, c'est aussi une réponse à plusieurs impasses. J'en citerai deux, puisqu'il y en a aussi plusieurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est important, répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Se dire que ce qu'on fait actuellement avec les ressources naturelles, il faut penser à l'avenir de nos enfants, de vos enfants, de vos petits-enfants. Donc c'est sur du long terme. Je rappellerai ici aussi un chiffre. On a eu beaucoup d'intensification de l'agriculture depuis les années 70. Alors, on a surtout, ça a conduit à utiliser et à détruire la qualité des sols qui existent à l'échelle mondiale. En 30 ans, on a utilisé 20% des richesses des sols, on les a détruits. Si on continue, pour 2030, on prévoit 50% des pertes de la qualité des sols à l'échelle du monde. Comment est-ce qu'on fera pour nourrir l'ensemble de la population à partir des années 30? Ça, c'est aussi une question. Donc ici, cette première impasse a été soulignée par Madame Grotland. Ce nom, vous dites peut-être rien, et je pense que 87, vous étiez peut-être pas né. C'est la première fois où un rapport sur le développement durable a été écrit. Donc c'est la première ministre norvégienne qui avait fait ce constat et déjà incité à faire du développement durable. La deuxième chose, c'est se dire aussi le mode de développement actuel. S'il vous plaît. Le mode de développement actuel nous conduit à une impasse en l'état pour les pays en voie de développement. Notre système économique, valable pour les pays développés, n'est pas adapté pour les pays sous-développés. Vous avez un exemple ici, hein. Un chiffre aussi, chaque Français rejette en moyenne 360 kg de déchets par an. Vous, à titre individuel, vous produisez 360 kg de déchets par an. Les pays sous-développés, ce chiffre est à multiplier par 3, et vous n'avez aucun système de collecte des déchets, si ce n'est l'évacuation par les cours d'eau. Alors, premier élément de synthèse sur cette définition de développement durable, vous avez finalement deux concepts qui sont associés derrière cette notion de développement durable. Le concept de besoin, des besoins essentiels surtout pour les plus démunis à l'échelle du monde, et la limite des techniques actuelles pour répondre à ces besoins. Derrière ça, malgré tout, on a aussi le besoin de protéger les ressources naturelles, d'où le développement de nouvelles techniques. Un exemple ici que vous connaissez, la prolifération des éoliennes. Alors la France n'est pas forcément le pays où il y a plus d'éoliennes, c'est en train de se mettre en place. Mais par exemple, est-ce que vous savez quel est le pays à l'échelle européenne qui est le plus avancé en termes d'éoliennes? La Hollande, c'est deuxième. L'Allemagne, troisième. Non, plus au sud et à l'ouest de la France. L'Espagne. Alors, ensuite, par rapport à ces définitions, en essayant d'être court, l'émergence de cette formule magique, développement durable. Pourquoi formule magique? Parce qu'à la base, ça c'est peut-être une idée personnelle en tout cas, associer l'idée de développement, donc d'utilisation des ressources naturelles d'un point de vue durable, c'est pas forcément associé, c'est pas forcément la bonne formule. Alors d'où est-ce que, comment est progressivement venue cette notion et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors au départ, ça vient d'un terme anglais, Sustainable Development, qui veut dire développement durable tout simplement, mais on a le terme en France qui existe, on peut le retrouver dans une citation et dans un texte, un écrit en 1346, donc vous voyez qu'on en avait évoqué à un certain moment. Et puis on a eu surtout, et c'est sur le principe de population de Malthus, que vous avez peut-être vu au lycée en tout cas, et puis un débat sur la préservation et conservation du parc Yellowstone qui fait mention de la nécessité de protéger les ressources naturelles. Donc ça, c'est vraiment les premières préoccupations environnementales à replacer sur du très long terme dans le passé. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on a l'intégration de la notion de développement. Développement, c'est assez simple à définir, c'est un accroissement des richesses associées à l'amélioration des conditions de vie d'une population sur un territoire. Donc après 1945, on a eu les Trente Glorieuses, une période de prolifération et d'utilisation des ressources de manière considérable. Et à la fin des années 70, ça coïncide avec le début, la fin même des Trente Glorieuses, plusieurs personnes se sont préoccupées de l'importance de la population à l'échelle mondiale par rapport à la consommation des ressources naturelles. Et vous avez notamment Harry Truman, président des États-Unis, qui a, à la base, donc, proposé une politique d'aide aux pays sous-développés, donc qui fait clairement référence à ce développement. Et puis, vous avez surtout un écrit qui commence à souligner ces préoccupations à l'échelle mondiale. La bombe 7 milliards d'hommes en l'an 2000. Il ne s'est pas forcément trompé. L'écrit date de 1968, donc il est assez vieux maintenant, hein, quand même. 40 ans avant aujourd'hui, on avait des hypothèses comme quoi le nombre de personnes à l'échelle mondiale serait très important et on aurait un problème sur les besoins et sur les ressources naturelles. Au début des années 70, le développement durable devient politique, devient un enjeu politique important. C'est à cette époque que se créent Greenpeace et la WWF, que vous connaissez, j'espère. Et puis en 72, on a également un autre ouvrage qui est important, Halte à la croissance, le rapport Meadow, qui introduit cette notion d'éco-développement à l'interface écologie-économie, qui est un des prémices au développement durable. Et puis, la première conférence qui a porté sur l'environnement au sens large, c'est la conférence de Stockholm en 72, puisqu'elle porte sur l'homme et son milieu, et notamment sur l'environnement urbain. Ensuite, à partir des années 80, on a un début de prise de conscience généralisée à l'échelle du globe, avec l'apparition donc du mot développement durable en 1980, on retrouve le terme de sustainable development, et surtout donc ce rapport Brundtland en 87, qui a pour objectif, en tout cas, dont l'un des objectifs de son rapport, c'est de limiter la production du dioxyde de carbone avec des émissions qui n'ont cessé de croître depuis les années 50. Et vous avez un chiffre ici qui vous montre l'augmentation beaucoup plus importante et plus accentuée de la production des gaz à effet de serre à l'échelle du globe. Donc ça, c'est le rapport Brundtland et un des premiers à parler du développement durable, mais également à demander des objectifs et des restrictions, notamment sur la production du CO2. À partir des années 90, la décennie 90 est la super période pour le développement durable. Vous avez un premier rapport du GIEC. Est-ce que vous connaissez le GIEC ? Groupement intergouvernemental sur l'étude du climat, qui alerte sur les risques liés au changement climatique, ce qu'on abrévie également sous le terme CC. Et la conférence de Rio en 92, c'est l'apothéose, je dirais, du développement durable. Tout le monde en parle. Il y a l'ensemble des pays présents, ce qui est une des premières phases importantes de la médiatisation devant le grand public du développement durable. Et surtout, derrière ça, vous avez la naissance de l'Agenda 21, qui est un document qui commence seulement à être mis en place en France. On est en 2011, on commence depuis 2007 à mettre en place des agendas 21 à l'échelle communale. Donc on doit faire un bilan à l'échelle des communes, des productions, de l'exploitation des ressources, et qu'est-ce que ça apporte, en tout cas en termes de bénéfices au niveau social et économique. Alors, suite à cette conférence de Rio, qui est vraiment l'apothéose, on a la charte d'Aalborg qui porte plus spécifiquement sur les villes durables et sur la manière dont les villes peuvent se développer tout en protégeant l'environnement. Et puis, conférence de Kyoto en 97, où il y a un protocole qui sera proposé, ratifié seulement en 2007, 10 ans après, par 183 pays signataires. Alors, ça c'est le bilan en 2010. Vous avez sur la carte l'ensemble des pays qui ont ratifié ce protocole. Vous avez tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est le premier pays pollueur du monde. Ils utilisent 25% des ressources naturelles du monde et ils ne veulent pas donc réduire surtout les émissions de gaz à effet de serre. C'est toujours d'actualité. Et puis depuis les années 2000, ça c'est une question, on se demande si on en parle de plus en plus, le développement durable, mais on a une tendance à un essoufflement, puisqu'on a, malgré la présence de déclarations de l'UNESCO sur l'importance de la diversité culturelle à l'échelle du globe, ce qui rentre dans la dimension éthique du développement durable, la conférence de Johannesburg a permis une ratification sur les ressources naturelles et sur la biodiversité. Néanmoins, en 2009, on a le sommet de Copenhague qui porte exclusivement sur le climat et le réchauffement climatique en évacuant la question du développement durable. Donc, on est en train de passer à une phase de prise en compte et de politisation du développement durable à une prise en compte au profit du changement climatique, ce qui alerte beaucoup plus de personnes, mais on détourne la question et on laisse de côté le développement durable. Alors, je ne commenterai pas cette figure puisque ce sera trop long. Simplement, l'idée, c'est que la notion de développement durable, elle a eu une phase importante, une croissance, avec la conservation de la nature, l'équilibre et la conciliation de ces trois piliers, l'économie, l'écologie et le social. Et puis, progressivement, donc, on a une ouverture à beaucoup d'autres notions, sauf que ce graphique résume à la fin ce rétrécissement sémantique, c'est-à-dire que le développement durable aujourd'hui, après une phase de médiatisation, de politisation, d'élargissement de la notion, se retrouve isolé au détriment, ou au profit plutôt, pardon, du réchauffement climatique. Alors, quelles peuvent être les limites et les regards critiques face au développement durable? Et puis je prendrai un exemple ensuite en faisant le lien avec les inondations. Les limites. Le concept de développement durable est déformable selon les affinités. Si vous êtes politique, si vous êtes une ONG, si vous êtes un mouvement écologique, vous n'avez pas la même prise en compte. Pour les écologistes, ce que vous avez résumé à gauche, ici, sur le graphique, qu'est-ce qui prime? C'est l'environnemental, puis le social, puis l'économique. L'économique est au dernier plan par rapport à deux autres dimensions. À droite, si je suis un homme politique, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est développer l'économique, puis le social, puis l'environnemental en troisième. En bas à gauche, si je suis plutôt une ONG humanitaire, je porte d'abord sur le social, puis sur l'environnemental, puis sur l'économique. Et puis, si je suis plutôt une ONG qui est tournée vers le tourisme durable ou le commerce équitable, et bien ce qui m'intéresse, c'est d'abord le social, puis l'économique, puis l'environnemental. Donc vous voyez que ce schéma résume, montre qu'on a des centres d'intérêt différents selon les acteurs, selon le rôle que vous avez, vous n'allez pas accorder la même importance et surtout accorder différentes priorités, soit plutôt à l'environnement, soit au développement économique du pays, soit au développement social. Et puis surtout, deuxième idée, c'est que derrière ce schéma-là, vous avez d'énormes pressions qui existent aux échelles locales, à différentes échelles, échelles locales, départementales, nationales, mondiales. Et donc, souvent, on a des prises de décision qui sont ralenties, qui mettent beaucoup de temps à être justement mises en place aux échelles locales. Ensuite, la question de l'échelle, de l'espace et du temps sur lequel on doit mener des projets de développement durable. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte, on se pose deux questions. La question du territoire, est-ce que c'est l'échelle locale qui est la plus pertinente? Est-ce qu'on doit développer à l'échelle d'un éco-quartier cette conception du développement durable tout en laissant d'autres zones industrielles fonctionner? Est-ce que c'est plutôt donc un fonctionnement global ou local? Et surtout, quelle temporalité? C'est bien beau de dire qu'on doit protéger les ressources naturelles du présent pour les générations futures, mais on se place sur quelle échelle de temps? Sur 10 ans? Sur 50 ans? Sur 100 ans? C'est deux questions qui aujourd'hui restent en suspens. Est-ce qu'on a également, autre question, une dimension politique prête au changement? Un graphique ici vous montre les bénéfices qui sont liés au développement durable, surtout au commerce de café, et vous avez les chiffres d'affaires qui sont présentés sur le graphique. Vous voyez qu'arrivent en tête des entreprises privées, Philip Morris et Nestlé, et qu'ensuite, on a les bénéfices qui sont rapportés à l'échelle des pays. Donc aujourd'hui, certaines entreprises se font beaucoup plus de bénéfices sous la couverture du développement durable, sans forcément rétribuer aux pays où ils utilisent les ressources naturelles, donc sans forcément rétribuer à ces pays-là l'ensemble des bénéfices produits. Donc c'est l'émergence d'une priorité à la rentabilité sous couvert de développement durable. On a un système capitaliste et une pression foncière qui sont telles que de toute façon, c'est globalement aujourd'hui la priorité à l'économie. Et puis vous avez l'émergence de termes qui aujourd'hui sont liés au développement durable. Est-ce que c'est du profit durable? Est-ce que c'est du pouvoir durable? Donc cette fois-ci, c'est vraiment priorité à l'économie. Et vous avez un ouvrage de Rebillard qui évoque ce problème ou cette crainte par rapport au futur, la croissance verte, comment le développement durable peut générer du profit, ce qui rappelle ces constats. Et puis, dernier point, est-il possible de mesurer l'efficacité ou le développement durable? C'est extrêmement difficile. Alors, j'ai pris un exemple, il y a différents indicateurs qui existent. Cet indicateur, c'est l'empreinte écologique, calculée selon l'association WWF. Quelle pertinence? Vous pouvez aller sur un site, c'est agir21.com ici, où vous pouvez calculer l'empreinte écologique de chaque être humain sur l'ensemble de la Terre. Je vous lirai simplement ici le texte qui vous donne le résultat. Pour une seule personne vivant en Europe, la Terre a besoin de 10 terrains de foot. C'est assez simple comme exemple et je pense que c'est assez facile à comprendre. Donc en Europe, la Terre a besoin de 10 terrains de foot pour subvenir à ses besoins, pour que vous, à chaque être humain, vous vous représentez un besoin en ressources de 10 terrains de foot. Un Américain en consomme le double, donc 20 terrains de foot. La moyenne mondiale, c'est environ 5 terrains de foot par personne. C'est ce qu'on a besoin en termes de ressources par an. Sauf que la Terre, elle ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins, puisqu'en moyenne, si on rapporte la population mondiale par rapport aux ressources naturelles, c'est 2 terrains de foot par personne. Donc vous voyez qu'entre ce qu'on a besoin comme ressources et ce que la Terre peut nous fournir, un Européen, c'est 5 fois plus que ce que la Terre peut produire à l'échelle annuelle. Un Américain, c'est 20 fois plus. Donc c'est un indicateur. Donc vous avez aussi le problème de la signification et comment est-ce qu'on mesure finalement l'efficacité du développement durable. Et puis, dernier point, je vais élargir un peu la discussion sur un exemple de développement durable. Alors, je n'ai pas pris la construction d'un éco-quartier ou des choses qui font plutôt référence à l'éco-conception. Je me suis dit que j'allais faire aussi un lien avec l'environnement et puis plutôt mes thématiques de recherche, les inondations. Donc, la question urbanisée en zone inondable, c'est un exemple de développement durable et surtout, c'est une recomposition urbaine qu'on est en train d'opérer au nom du développement durable. Un bilan inquiétant en France. Premier constat, 6% du territoire français est exposé aux crues. Ça fait 18 000 communes sur les 36 000 qui existent en France. Donc c'est la moitié des communes françaises qui sont exposées à un risque d'inondation assez important. Ça englobe 15% de la population et ça représente 80% du coût total des dégâts naturels en 2004. La moyenne annuelle, c'est entre 80 et 90% des coûts liés à des catastrophes naturelles sont liés à des inondations en France. Et puis, vous voyez qu'il y a 54 000 communes qui ont été touchées par des inondations sur les 30 dernières années. Donc ça, c'est un chiffre important qui s'explique par deux phénomènes. Ce coût est en constante augmentation lié à des mutations du territoire et à une urbanisation excessive dans les zones inondables. Et puis, alors, pour illustrer ce point, en 10 ans, entre 1999 et 2008, on a construit 100 000 logements en zone inondable en France, volontairement. Donc 100 000 logements, vous imaginez l'importance de ces territoires de plus en plus développés et construits en zone inondable. Et puis l'année 2010 a été catastrophique, entre guillemets, puisque c'est une des années les plus meurtrières en France liées à des inondations. Il y a eu 49 morts à La Faulte-sur-Mer en Vendée, et puis 25 morts dans le Var, suite aux catastrophes de Draguignan en juin 2010. Alors, pourtant, en France, il existe des moyens de limiter cette urbanisation en zone inondable. Vous connaissez peut-être, on en parle assez fréquemment, ça s'appelle le plan de prévention du risque inondation, le PPRI, donc qui a été institué en 1995 par la loi Barnier, et qui a un double objectif, sécuriser les personnes et assurer le développement durable. C'est clairement indiqué dans les textes. On va essayer d'assurer un développement social, économique, dans des zones inondables, tout en essayant de maintenir également ces ressources naturelles. Donc vous avez un exemple ici, une carte réalisée sur le Vaucluse, sur les différents PPRI qui existent sur ce territoire. Les conséquences de ces plans de prévention du risque inondation sont de deux ordres. On a des contraintes fortes sur l'urbanisation, avec, dans des zones qu'on considère comme rouges, l'aléa inondation est très fort, les constructions doivent être interdites. Ça, c'est de la théorie, puisqu'en fait, ça ne marche pas. On limite l'urbanisation, mais on a quelques constructions qui sont autorisées dans des zones rouges. Exemple, la Faute-sur-Mer, où le camping a été autorisé et maintenu. Depuis 2002, la commune se bat pour fermer le camping. Le camping a été maintenu, et c'est là où vous retrouvez les 30 morts suite aux submersions marines de février 2010. La localisation des morts, je vous la montrerai juste ensuite, c'est située en zone rouge sur la commune. Donc la deuxième conséquence de ces plans de prévention du risque inondation, et c'est là où on revient sur la pression sur les différents acteurs, c'est que le maire, normalement, c'est lui qui autorise les permis de construire. C'est lui qui appose sa signature, c'est le dernier en tout cas à poser sa signature. Les maires sont très réfractaires à appliquer ces plans de prévention du risque inondation, puisque pour eux, ça limite leur pouvoir d'urbanisation. Si je suis un maire, j'ai tout intérêt à développer ma commune pour attirer des personnes et augmenter le nombre de logements sur ma commune. Ça marchait encore lorsqu'on avait la taxe industrielle qui rapportait de l'argent aux communes. Donc il y a beaucoup de maires qui étaient réfractaires à l'idée d'appliquer ces plans. Et puis on a une position délicate, puisque le maire, finalement, il a la pression de la population qui veut avoir un logement, et la pression de l'État qui descend sur les maires en disant « attention, vous construisez dans des zones inondables ». Donc le maire, c'est vraiment le maillon central intermédiaire entre ces deux pressions. Et les intérêts parfois contradictoires aboutissent à des situations à risque en fonction de la prise en compte de l'économique, du social, de l'environnemental. Le maire de la Faute-sur-Mer, sans le dénoncer forcément, c'est plus compliqué que ça, mais le maire a gagné, entre guillemets, sur son territoire, puisque depuis 2002, le préfet voulait interdire le camping qui était situé en zone rouge. Le dossier a été porté devant la justice et le maire a gagné contre le préfet, ce qui a permis le maintien du camping, ce qui a malheureusement abouti à une situation dramatique. Vous avez la photo du camping à gauche, avec les niveaux de submersion atteints en février 2010, et la localisation des décès, malheureusement, à droite. L'ensemble des décès sont situés dans le camping. Alors, pourquoi est-ce que finalement ce problème de développement durable, ou cette position est délicate de la part des maires? Bien, tout simplement parce qu'on a une pression d'un acteur qui est fondamental aujourd'hui. Il y a l'économie, il y a surtout les promoteurs immobiliers. Et donc on a de nombreuses constructions autorisées dans les zones à risque, je vous ai rappelé le chiffre tout à l'heure, et surtout derrière, c'est qu'on a des plans de prévention qui tardent à être mis en place. Normalement, ils sont obligatoires depuis 1995, on a 10 000 plans qui sont aujourd'hui validés sur les 16 000 communes où normalement on devrait avoir des plans validés. On est en 2011, ça fait 16 ans. Donc il y a un retard sur la mise en place de ces documents réglementaires. Alors, ça va bientôt se terminer. On observe un phénomène particulier, c'est qu'aujourd'hui, on dit bon d'accord, le plan de prévention du risque, il existe, on a des zones rouges, on a quand même du bâti qui existe depuis avant la mise en place de ces plans de prévention du risque, et ce qu'on observe, c'est qu'on n'a plus d'étalement urbain comme on faisait depuis 10 ou 15 ans, l'étalement des communes dans les zones inondables s'est arrêté, par contre on a une densification du bâti dans les zones à risque, c'est-à-dire qu'avant on s'est étalé sur des territoires dangereux. Maintenant, on dit bon, c'est bon, on arrête. Mais par contre, on va densifier le nombre de bâtis et le nombre de logements dans ces zones à risque. Deuxième phénomène, c'est qu'on a une absence de politique globale. C'est ce qu'on retrouve un peu sur cette question de développement durable, agir local, penser global. En France, on a un problème sur cette prévention du risque inondation. C'est qu'on n'a pas de politique globale. Alors, plusieurs points pour argumenter sur ce point, sur cette idée. C'est qu'on a des outils de prévention trop nombreux et juxtaposés dans l'espace. Le plan de prévention du risque d'inondation est un des plans parmi l'ensemble des autres documents qui existent. Les décisions sont souvent prises dans l'urgence. Nouvel objectif après les crues de Draguignan, avoir 15 000 plans PPRI pour 2015. Donc vous voyez que c'est un chiffre qui normalement est censé faire réagir les personnes, mais sauf que c'est une décision au coup par coup. Ensuite, on a des réglementations qui sont prises au niveau national sans aucune expertise au niveau local. Encore 3 minutes. On a une gestion du risque qui se fait par le maire à court terme, à l'échelle d'un ou deux mandats, donc c'est 4 ans ou 8 ans. Donc là, on n'est plus du tout sur du long terme. Vous voyez que le court terme, c'est 4 ans ou 8 ans, donc c'est très court. Et puis, on a des préoccupations quotidiennes plus importantes. Pour les populations, il est important d'avoir une maison, de manger, d'avoir un travail, et peu importe si notre logement est construit en zone inondable. Alors, conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément évident de conclure sur ce sujet-là. En tout cas, le développement durable est une chance à saisir pour les peuples et peuples de la planète et par chacun de nous. Même si vous, à titre individuel, vous représentez rien, si ce n'est un tout petit quelque chose par rapport à l'ensemble de la population mondiale, poussière d'étoiles, insignifiante, irremplaçable, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de prendre en compte cette notion de développement durable. Agir tous les jours au nom du développement durable, alors c'est une parole, puisque chaque jour, on déroge à cette règle-là. Ensuite, une citation de Michel Mombrin qui est assez intéressante. À ceux qui vous diront que c'est une douce utopie irréaliste, parce qu'ils sont fossilisés dans leur certitude, leur peur et leur égoïsme, n'hésitez pas à répondre que la pire des pollutions, c'est celle de l'esprit. Je vous laisse méditer sur cette citation. Et puis, dernière idée, en s'appuyant sur de nouvelles valeurs universelles, le développement durable au nom du principe de précaution, de la responsabilité, une participation écologique au nom du partage des richesses entre tous, c'est quand même une belle utopie. Il convient quand même de rappeler que chaque être humain a le même droit aux ressources de la Terre et que nous avons le devoir d'assurer la pérennité de nos ressources naturelles pour les générations futures. Dernière diapo, néanmoins, au-delà des directives et des discours que vous entendez, que vous pouvez lire, que vous pouvez avoir, la réalité aux échelles locales paraît bien plus complexe. Certains pays développés tentent de jouer le jeu dans cet objectif de protection de la ressource. D'autres pays, sans les citer, sont à contrario des donneurs de leçons. Et après l'échec du sommet de Copenhague et l'enlisement des pouvoirs politiques face à la crise économique, l'avenir du développement durable devient compromis, surtout au détriment du réchauffement climatique. Pourtant, les nombreuses initiatives opérées localement doivent insuffler une nouvelle dynamique à la prise en compte du développement durable au niveau mondial. Exemple, la mise en place des agendas 21 à l'échelle communale. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions...